Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Approchez-vous. Amen. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec notre frère Réjean. Il voulait nous témoigner d'un témoignage concernant quand les hommes disent « c'est impossible », Dieu dit « c'est possible ». Je vais vous faire peut-être vous venir ici. Et puis, Réjean, je vais te laisser partager ce que ce Seigneur a fait. C'est un témoignage dans le passé, mais il y avait à cœur quand même de nous partager pour encourager votre foi, pour vous dire que même quand les hommes disent « c'est impossible », Dieu dit « c'est possible ».
Amen. C'est ça, ça remonte à 88-87. C'est au moment où ce que j'avais déménagé avec ma femme en France. On n'avait pas encore d'enfants, mais j'étais revenu ici pour des détails légaux, pour des papiers. Et puis, pendant que je reviens, ma mère m'annonce que ma grand-mère a fait une chute du premier plancher à la cave sans toucher l'escalier. Ma grand-mère, en passant, elle avait 86 ans. Et puis, ils l'ont ramassée, ils l'ont menée à l'hôpital. Quelqu'un avait oublié de fermer la trappe, puis elle a planté. Et puis, quand j'ai su ça, ça m'a beaucoup bouleversé. Puis, le téléphone a sonné au moment où ma mère m'annonce ça. Puis, elle répond au téléphone, puis elle commence à parler de cet événement-là, parce que ça avait arrivé quelques jours, un petit peu avant. Et puis là, elle dit à la personne au téléphone, « Ah, ça va prendre un miracle pour la sortir de là, parce qu'elle était à ce moment-là dans le coma. » Un coma léger, mais quand même. Fait que là, moi, ça a allumé dans ma tête. Et je suis allé chez un de mes frères dans le Seigneur pour prier à cet égard-là, parce que je me disais, un miracle, ça dépend du roi des rois. Fait que j'ai présenté ma requête le mieux que j'ai pu avec la connaissance que j'avais. Et puis, le soir même, quand ils sont allés, elle était sortie du coma. Et puis, elle balbutiait comme un enfant, juste des syllabes, là, tu sais, blablabla, des affaires comme ça. Elle essayait de parler, mais on voyait qu'il y avait de quoi dans la boîte en haut qui n'était pas encore complètement. Puis, le lendemain, quand ils sont allés la voir, à la surprise de plusieurs, elle parlait normalement. C'est comme si là, c'était comme tout était replacé. Puis moi, j'ai glorifié Dieu pour ça, mais probablement que je n'avais pas eu de micro dans les mains pour être capable de le dire à plusieurs personnes. Bien là, vous le savez ce matin, c'est que dans ce temps-là, en dépit de la foi, en dépit de tous les défauts qu'on pouvait avoir, qui que ce soit dans cette histoire-là, bien le Seigneur a mis sa main. Moi, c'est mon point de vue, puis je suis convaincu de ça, personne ne veut m'enlever ça, parce qu'elle a vraiment, c'est une personne à 86 ans, avait une fracture du crâne, puis une fracture du bassin, puis des personnes de cet âge-là, il essaye de ne pas trop intervenir parce que ça peut causer des complications. Il ne l'avait pas opéré, il n'avait rien fait, puis il est revenu comme ça. Fait que je rends gloire à Dieu, puis je vous encourage à mettre votre foi aussi simple qu'elle peut être entre les mains du Seigneur, puis le Seigneur peut faire quelque chose quand vous demandez. Amen. Je vous remercie, puis soyez bénis.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon. Amen. Christiane.
Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est mon témoignage. C'est arrivé il y a quelques années passées. On était dans une convention de guérison aussi. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, moi, je m'étais placée à l'arrière. Et puis, à la fin, le pasteur demande pour la ligne de prière. Et je priais beaucoup pour mon père parce que mon père devait avoir une opération au genou. On devait lui mettre un genou en téflon. Puis, je voulais pas qu'il y ait ça. Je voulais qu'il soit guéri. Puis, bon, j'avais beaucoup, beaucoup mon cœur en prière. Mon père sur mon cœur, pardon. Ensuite, j'étais à l'arrière et je priais pour mon père. Puis pendant que le pasteur priait, il a dit, « Toi, à l'arrière, là-bas, viens ici. » Et moi, je me suis dit, « Moi, Seigneur? Non, c'est pas moi. Pourquoi moi? » Alors, je me suis tassée un petit peu pour que l'autre personne à côté puisse y aller. C'était pas moi, c'était l'autre. Fait que l'autre personne s'avance et dit, « Non, pas toi, toi! » Là, j'ai fait signe à l'autre, « Vas-y, vas-y, c'est toi. » Là, il dit, « Non, toi! » Là, j'ai compris que, « Vas-y, c'est toi! » Alors, je me suis avancée. Quand je me suis avancée, je lui ai dit, « Mon père est très malade, je prie pour mon père. » Il n'a pas écouté ce que je disais. Il a mis sa main sur ma tête, puis il m'a dit, « Quand tu priais, j'ai vu une lumière sur toi. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. » Je me suis dit, dans mon cœur, parce que même si je parlais, il était tellement enthousiasmé, tellement dans loin de tout ça. Fait que j'ai dit, je parlais dans mon cœur, je dis, « Seigneur, c'est pas moi qui est malade, c'est mon père. » Fait que là, il met sa main sur ma tête, puis il prie, « Guéris-le, Seigneur. » Puis dans mon cœur, je réponds, « « Seigneur, c'est pas moi, c'est mon père! » Plus fort. Lui, il répond plus fort. Il n'entendait pas mon cœur. Il répond plus fort. « Guéris-le, Seigneur! » Ça s'est passé 3 fois, je répétais plus fort. Il répétait plus fort que moi. À un moment donné, j'ai dit, « Ben, peut-être que je suis malade. Alors, Seigneur, je le reçois, mais je suis pas malade. Je le reçois. » Fait que, « Amen. » Puis, je suis retournée à ma place. Donc, la semaine suivante, j'avais déjà un rendez-vous de prévu chez mon médecin pour un examen annuel. Et puis, elle fait l'examen, blablabla. Vous savez comment ça se passe pour nous, les dames. Alors, elle découvre que j'avais 4 kystes sur un sein. Fait que ça ne m'a pas effrayée sur le coup. Puis là, elle m'a dit, quand elle a vu que j'étais très calme, elle m'a dit, « Christiane, je vais t'envoyer tout de suite en mammographie en urgence. On fait une biopsie parce qu'elle dit, j'aime pas ça, c'est comme ça, puis c'est pas bon signe. » Alors, j'ai dit, « OK, j'ai pris le papier. » Puis dans l'auto, c'est là que j'ai réalisé qu'est-ce qui s'était passé. Là, dans l'auto, je me suis réjouie. Puis je vois encore le papier dans ma tête, les petits dessins avec les TX où étaient les 4 kystes. Elle me les a fait toucher. Je pouvais très bien les sentir. Puis j'ai eu un rendez-vous le lendemain en mammographie en urgence. Et puis, j'ai jamais passé la biopsie. Parce que rendu en mammographie, il n'y en avait plus de kystes. C'était terminé. Gloire à Dieu. Il répond aux prières avant même qu'on ait répondu. On ait appelé. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alba. Alba, c'est une dame espagnole. Et puis, elle a reçu une guérison la semaine passée, ou la 2 semaines? La semaine passée. Et puis, on va vous laisser témoigner. Elle parle en espagnol, et puis, mais elle va parler en français aujourd'hui. Hein? C'est ça? Un petit peu en français? Ou Christian, je ne sais pas, tu veux-tu rester pour peut-être assister?
Okay. Ah oui. Parce que bonjour, je suis colombienne et je parle un peu. Parce que j'espère que toutes les personnes comprennent un peu. Parce que c'est Christian qui, avec des difficultés pour parole, il le dit. Merci. Parce que c'est pour. Aujourd'hui, je reviens parce que c'est pour dire merci Seigneur parce que c'est le dernier examen que j'ai allé à l'hôpital et c'est que les médecins m'ont dit que c'est pour opérer les amygdales. Parce que j'ai dit que, oh, que c'est pour la première fois que je suis opéré et j'ai dit, oh non, je pense que c'est un peu difficile pour moi. Parce que j'ai allé beaucoup de jours à la maison de la madame, Christian, et elle m'a dit que si je suis d'accord, parce que avec des personnes qui prient pour moi. Et je lui ai dit que c'est mieux pour moi. Et parce que aujourd'hui, je suis très content, parce que j'ai allé à l'hôpital pour le dernier examen, et le médecin m'a dit que non, que tout c'est bien. Y yo estoy muy contenta, es que sé por qué. Merci a toutes les personnes por moi.
Amen. Merci, Alba. C'est super. C'était ministre. Oui, alors, je vais juste peut-être réexpliquer. Je vais vous laisser partir. Merci. C'est ça. Christiane aussi me l'a partagé au téléphone, juste pour être sûr que si vous n'avez pas tout compris. Mais la sœur, en tout cas, elle avait un problème avec ses amygdales. Et puis, vous savez, quand on est des adultes, là, c'est beaucoup plus compliqué de se faire opérer. Et puis, en tout cas, dans une des rencontres avec mon père était là, puis Jean, puis Christiane, toute l'équipe des Espagnols, ceux qui prennent les cours d'espagnol, ils ont vu qu'Alba était là, puis qu'il y avait ce problème-là, puis elle ne voulait pas aller se faire opérer. Ça ne tentait pas, puis je comprends aussi. Hein. Sauf que qu'est-ce que le groupe de notre église ont fait? Ils ont prié, mon père il a prié pour elle, et puis dans son prochain rendez-vous chez le médecin, ils ont vu qu'elle était guérie. Alors, Dieu est encore en opération. Et vous savez, Jésus guérit pas juste dans le cadre d'une réunion d'église, mais Jésus guérit même dans les maisons. Peut-être, je trouve le micro, ça se peut-tu qu'il est trop fort? Un petit peu? Peut-être le descendre un petit peu? Moi, je trouve ça fort pour moi, là. Gloire à Dieu, encore peut-être? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est... Là, c'est plus beau, là. Gloire à Dieu. Bon, ça, c'est bon. Alléluia. Maintenant, Joanne.
Bon matin. Moi, ça serait pour vous partager comment que le Seigneur est bon. Dimanche passé, c'est ça, je me suis avancée. Moi, j'avais des problèmes d'estomac. Ça fait quasiment un mois et demi, 2 mois proche de ça là, que je ne gérais plus rien. Je suis rendue à la soupe et aux céréales. Puis des fois, j'avais des diarrhées, fait que des coliques, ça me faisait bien mal quand je mangeais. Et alors, je me suis avancée, et c'est ça, là, j'ai senti une chaleur. Puis Là, j'ai juste eu tellement de joie que je suis partie à rire, puis j'arrêtais pas de rire. Puis j'ai été persuadée, là, j'ai su que j'étais guérie. Dès le soir, j'ai pas eu besoin de mon comprimé, parce que le médecin m'a donné un comprimé pour pousser la nourriture, parce que j'étais plus capable de manger. Je l'ai même pas pris, je l'ai oublié. Puis j'ai dit non, je suis guérie, là, c'est pas grave la pilule. Puis ça a tout bien passé. Puis là, l'énergie revient parce que je travaillais en plus avec les enfants, j'étais éducatrice. Puis c'était difficile mes journées, j'arrivais, j'étais fatiguée, parce que je manquais de protéines et tout ça. Alors, je voulais vous partager comment le Seigneur est bon. Et même, j'ai eu un bonus parce que j'avais des raideurs dans le cou et ça a parti en même temps. Fait que gloire à Dieu.
Amen. Amen. Merci, Joanne. Amen. Et là, on a Marie-Josée. Et Marie-Josée va nous partager comment le Seigneur l'a guéri. C'est un processus de guérison. Il y a des guérisons que c'est un miracle tout d'un coup. Et il y en a d'autres que c'est en chemin, comme les 10 lépreux, n'est-ce pas?
C'est ça. Comme Pasteur Joël, il partage, il y a beaucoup de guérisons qui se font en chemin. J'ai eu un accident en 1985. Puis moi, j'étais militaire. J'ai eu beaucoup de complications qui m'ont laissé avec deux diagnostics de maladies incurables selon les médecins. J'ai eu besoin de 8 opérations, dont 6 majeures, suivies de plusieurs complications. Puis j'ai perdu énormément de poids. Je n'ai pas trouvé plus magané que ça, mais j'ai pesé jusqu'à 94 livres. Les médicaments m'endormaient tellement. J'étais une femme qui était très active à cause du militaire, mais maintenant, je m'endormais partout, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai vécu 10 ans dans un lit où j'avais 18 injections par jour. Puis il faut faire attention avec les paroles qu'on prononce, parce que des fois, on prononce des choses sur notre vie qui ne sont pas correctes. Puis c'est dans cette période-là que j'ai rencontré les parents à Mathilde, Maurice puis Michel, puis qui ont commencé à m'enseigner sur la guérison divine, où il faut vouloir être guéri. Mais moi, je n'étais pas prête au début.
OK, je vais arrêter ici. Marie-Josée, explique-moi donc, il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Comment ça, toi, tu ne voulais pas être guérie tout de suite?
Il y a toutes sortes de choses dans notre vie qui fait que des fois, c'est facile, les conditions qu'on vit. On n'a plus de... Premièrement, moi, j'ai une bonne pension. J'avais peur de la perdre, mais Dieu il est bon. Il me l'a laissé quand même, malgré ma guérison. Puis des fois aussi, dans notre famille, c'est plus facile de vivre dans ce qu'on a là que de changer notre façon. Un jour, j'ai décidé que oui, là, je voulais être guérie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ma guérison. Il a fallu que je passe quand même 10 ans dans mon lit avant de décider de choisir. Puis, j'ai eu beaucoup de rencontres avec Maurice puis Michel pour prier, pour apprendre aussi à vivre chaque jour avec notre guérison, même si notre corps, il ne les sent pas encore. Il faut se lever chaque matin puis se battre. J'ai commencé à vivre ma guérison très difficilement à cause des médicaments. Là, j'avais arrêté les injections, mais j'étais rendue que je prenais 100 de pilules par jour. Fait que je devais utiliser un fauteuil roulant à cause des effets secondaires. C'était pas que j'étais paralysée, mais j'avais pas de force, j'avais pas de système musculaire ou d'ossature pour m'aider.
Puis une question, tu me disais que les médecins disaient que tu avais un corps d'une femme ou les os que tu avais, c'était des os d'une femme de 90 ans.
Oui. Puis aujourd'hui? Maintenant, ils sont rendus à 70, mais je suis sûr qu'ils sont encore meilleurs que ça, parce que ça fait plus qu'un an que j'ai pas passé le test. OK. Ça, c'est en juin 2005. Essayer de changer les médicaments, c'est pas facile. Puis les médecins, ils essayent beaucoup de choses. Puis là, au lieu de perdre du poids, je me suis mis à prendre du poids. J'avais vraiment besoin de trouver quelque chose à faire, puisque c'est facile d'être couché 20 heures par jour, puis après ça, du jour au lendemain, décider, aujourd'hui, il faut que je vive comme je suis guérie, mais j'ai rien à faire. J'ai commencé à crier à Dieu pendant comme 3 jours de temps. Là, je pleurais puis je criais, « Dieu, tu dois me donner quelque chose qui va me donner le goût de me battre. Okay. » Dieu, il nous connaît. Il sait où aller nous chercher. Il connaît nos besoins. Pendant que moi, je priais pour une nouvelle vie dans ma vie, un couple, Frédéric et Nadia, eux, ils priaient pour avoir une nounou pour leur garçon qui est né. Pendant cette année de guérison-là, puis ils m'ont demandé d'être la nounou et à chaque jour, j'avais besoin de me lever pour m'occuper d'un enfant, ce qui me donnait le goût de me battre pour pour le faire. Ça, c'est un an plus tard. Donc, la première photo que vous avez vue, que j'étais en fauteuil roulant, Lucas est venu 6 mois après, puis ça, c'est 6 mois plus tard, c'est il y a 2 ans. Puis, j'ai beaucoup changé. J'ai accepté un poste à l'école du dimanche, même si ma guérison n'est pas parfaite, puis je continue de me battre avec Dieu chaque jour. Donc, il n'y en a plus de photos. Donc, si vous retournez à la maison avec une guérison aujourd'hui, mais qu'il y a des symptômes qui viennent frapper chez vous après, je vous conseille de garder la foi et la patience, car Dieu a déjà tout accompli à la croix. Amen. Dieu, j'ai lu quelque chose de Kenneth Copeland qui dit que la foi ouvre les portes aux promesses de Dieu pour vous et la patience la garde ouverte jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Fait que j'ai la foi, mais je garde la patience jusqu'à ma guérison complète.
Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux de voir ça, les photos, là. Comment on peut voir une transformation d'une personne, hein, qui aurait cru. Pas les médecins, hein. Souvent les médecins, ils croient pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu. Et puis, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 3. Amen. On va pencher nos têtes. On va prier. Pour notre temps dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour toutes les guérisons que tu as effectuées récemment, Seigneur, et dans le passé. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu n'as pas oublié le peuple ici aujourd'hui. Et tu as encore des plans de guérison pour ce jour. Et Seigneur, on veut te louer, t'adorer, Seigneur, pour qu'est-ce que tu vas faire en ce moment. Et Seigneur, on prie que tu puisses disposer nos cœurs à bien recevoir la parole de Dieu, que tu puisses ouvrir notre intelligence, Seigneur, à recevoir également ta parole, qu'on puisse avoir un esprit de révélation aujourd'hui. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Alors, on peut dire gloire à Dieu pour les miracles que le Seigneur fait encore en ce jour. Et puis, ça me réjouit d'entendre ces témoignages-là. Et j'espère que ça fait la même chose pour vous. Et ce matin, je vais juste vous rappeler un petit peu qu'on a déjà fait 3 autres sessions sur la guérison divine. Je vous rappelle un petit peu, la première session, on a parlé de la guérison divine, comme quoi la guérison faisait partie de l'œuvre de la croix. Et comme Jésus a pleinement payé pour le paiement pour nos péchés, il a en même temps payé pour notre guérison divine. Alors, c'est pas une question, est-ce que Jésus veut simplement te pardonner de tes péchés, mais en même temps, s'il veut te pardonner de tes péchés, c'est sûr et certain qu'il veut te guérir parce qu'il a payé pour la guérison à l'œuvre de la croix. Ça fait partie de l'œuvre de l'expiation. Dans notre deuxième session, on a parlé comment on devait renverser les faux raisonnements qu'on a souvent à cause de la tradition qui circule dans les églises. Il y a toutes sortes de choses, et certaines choses qu'on a mentionnées, c'est que Jésus n'est pas faible, OK, et le diable n'est pas si fort que ça, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent constamment comment le diable fait des grandes choses et comment le diable est fort, mais on a compris que Jésus est plus fort que le diable. Vous en rappelez? Amen. Donc, on a parlé de ça. Et on a défait le mythe également que toute guérison doit être instantanée. Il y a des gens qui pensent, comme l'histoire de Marie-Josée, admettons, il aurait prié une fois pour elle, et puis elle serait pas levée tout d'un coup la première fois, et puis il aurait dit, ah, ben, peut-être Dieu veut qu'elle soit malade. Et puis, ça serait la conclusion qu'on pourrait en tirer souvent. C'est comme ça les gens pensent. Mais c'est pas vrai. Faut saisir les promesses de Dieu par la foi, et par la suite, Dieu fait un travail, et des fois, c'est progressif. Et toute chose concourt à notre bien, ça c'est la clé numéro 1, je pense, au Québec. Il y a 2 choses qui sont très, très populaires au Québec, entre autres, toute chose concourt à notre bien, mais toujours faut lire le texte dans son contexte, et le contexte nous parle de la prière d'intercession. Dans Romains 8, 26, 27, 28, les gens vont juste citer la partie 28, oubliant 26 et 27. En parlant des versets. Alors, il faut prendre le texte et dire, oui, toutes choses vont concourir à notre bien lorsque je vais prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, on a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Et l'autre chose qu'on a vu la semaine passée, la semaine d'avant, c'est que le chrétien doit souffrir la maladie. Parce que ça dit dans la parole qu'on doit faire part des souffrances de Christ, mais ici on se réfère à recevoir ou permettre certaines souffrances à cause de la persécution. Donc, on a fait la distinction entre les persécutions et la maladie. Si Jésus a déjà porté à la croix pour nos maladies, on ne doit pas se charger encore une fois de ces maladies-là. Mais cependant, ça se peut qu'on va vivre la persécution en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on se charge de notre croix et on s'identifie à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous en rappelez? Donc ça, c'était notre deuxième session. La troisième session, on a parlé comment le chrétien est une marionnette. Bon, ça, c'est la façon que souvent les gens vont penser qu'on est une marionnette entre les mains de Dieu et Dieu fait qu'est-ce qu'il veut avec nous parce que Dieu est souverain. Mais on a compris que dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous a donné des responsabilités. OK? Donc, on a la responsabilité d'avoir la vision de Dieu, les pensées de Dieu et le vocabulaire de Dieu. Vous en rappelez? Amen. Le frère Jean, lui, s'en rappelle. Amen. Donc, on a vu ces choses-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est que vous êtes le produit de vos croyances. Si vous savez lire, vous êtes le produit de vos croyances. Et vous savez, ce que vous croyez, c'est ce que vous recevez comme enseignement biblique. Donc, c'est vraiment important de recevoir une parole qui est vraie. N'est-ce pas? C'est super important d'entendre une parole qui va bâtir notre foi, parce que si on s'expose à une parole remplie de traditions, on va devenir cette parole-là. Et le Seigneur, aujourd'hui, il veut qu'on puisse saisir les paroles de vérité et non les paroles de tradition. Amen? Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous êtes le produit de vos croyances et vos croyances sont le fruit de ce que vous entendez. Si vous entendez comment Dieu veut que vous soyez malade et comment Dieu travaille par la maladie, vous allez croire que lorsque vous êtes attaqué dans votre corps, vous allez croire que c'est l'œuvre de Dieu. Et vous allez même dire, ben le Saint-Esprit est en train de me façonner à l'image de Dieu par la maladie. Et ça, je peux vous dire, c'est un enseignement, je pense le deuxième, numéro un, là, ben, je dis numéro un, mais les plus populaires dans la francophonie, c'est vraiment que Dieu, bon, toutes choses concourent à notre bien, et l'autre, c'est que Dieu se sert de la maladie pour enseigner ses enfants à vivre dans la sainteté. Mais les deux choses, c'est des faux raisonnements qu'on doit renverser si on veut recevoir le bienfait de notre salut. Amen. Et la parole dans Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, on doit constamment recevoir la parole de Christ dans nos oreilles afin que ça descende dans notre cœur. Amen. Et si on reçoit vraiment la parole de Christ, on va devenir mature et on va savoir comment vivre la vie victorieuse dans tous les domaines de nos vies. Alors, ce matin, en allant dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, ceux qui sont là, vous pouvez dire « Amen ». Amen. Je vous ai donné beaucoup de temps cette fois-là. Hein? Il y en a qui disent « Tu parles vite ». Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur ». Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Alors, les gens, lorsqu'ils vous voient, les gens voient les lettres d'un ministère. Ils voient votre vie et vous représentez ce que vous croyez. Et quand les gens voient des personnes qui ont reçu une guérison de la part de Dieu et qui peuvent en témoigner, c'est un témoignage, justement, pour les gens. Ils peuvent voir, waouh, cette personne-là a reçu quelque chose dans sa vie. Mais, de l'autre côté, quand on n'est pas renouvelé dans nos pensées et puis on commence à parler comme la tradition et on vit la tradition. En même temps, on est une lettre ou une épître vivante. Là, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on a reçu dans notre cœur et comment on vit. Et cette semaine, je vais vous partager, on est allé, mon épouse et moi, prier pour une personne et je vais changer son nom juste pour protéger l'intimité de la personne. On va l'appeler Jeannette. OK? Cette femme-là, on est allé la voir et... on a trouvé ça vraiment spécial parce que cette dame-là a été, pas diagnostiquée, mais en tout cas, oui, elle a le cancer. C'est ça, le diagnostic humain, là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils lui ont dit qu'il lui restait 2 semaines à vivre. Ça, c'était cet été. Donc, on voit, on est rendu au mois d'octobre. Cette personne-là, qui avait 2 semaines à vivre, avait refusé le diagnostic du médecin. Le médecin qui disait, il te reste 2 semaines à vivre. Et puis, elle, dans son cœur, elle nous a partagé que le Seigneur lui avait dit qu'elle avait de longs jours encore à vivre. Alors, au lieu de croire le rapport médical, elle a cru le rapport de Dieu dans son cœur. Mais une chose qu'on a découvert en parlant avec elle, c'est qu'il y avait toutes sortes de croyants qui sont venus la voir à l'hôpital et puis qui venaient attristés. Ils venaient la voir déjà avec l'impression qu'ils perdaient une sœur dans le Seigneur. Déjà, les gens étaient résignés à perdre cette sœur-là. Il n'arrivait pas avec la foi pour l'encourager, pour lui dire, « Hey, ma sœur, je vais croire avec toi pour la guérison. » Non, il arrivait là en pleurant, en disant, « C'est-tu triste? On va te perdre. » Et je trouve que c'est un témoignage très triste de l'Église chrétienne aujourd'hui, que lorsque quelqu'un est malade, au lieu de croire la parole de Dieu et d'encourager la personne à croire les promesses de Dieu, on va les décourager et puis on va leur dire, « Il te reste 2 semaines à vivre, c'est-tu triste? Et on va pleurer avec toi. » Et c'est ça qui se passe dans nos églises et on doit voir un changement. Certainement dans notre Église, s'il y a quelqu'un qui reçoit un mauvais rapport d'un médecin, on veut croire la parole de Dieu en tout temps, n'est-ce pas? Amen. Et puis, en tout cas, en parlant avec cette dame-là, on a découvert des choses qu'elle croyait, qu'on a pu amener la parole de Dieu pour lui donner plus de lumière. Et puis, je suis encouragée parce qu'elle était super réceptive. Elle voulait recevoir plus de Dieu. Et puis, elle disait justement que le Seigneur lui avait dit que oui, tu crois des choses qui sont bonnes pour la guérison, mais il y a d'autres choses qui te restent à apprendre. Puis, on est content parce qu'on a eu le privilège d'aller la rencontrer, de prier avec elle, de s'attendre à une guérison complète. Et vous savez, moi, je crois que cette femme-là va être totalement guérie, qu'elle va recevoir la manifestation complète de sa guérison parce qu'elle s'attache à la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, c'est écrit dans la parole que Dieu va nous rassasier de longs jours. Et puis, on lui a demandé, on a dit, est-ce que vous êtes rassasié? Puis, elle dit, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit, bon, à ce moment-là, j'ai dit, il vous reste beaucoup de temps à vivre encore. J'ai dit, on va prier pour vous un autre 40 ou 50 ans. Parce que la dame, là, elle n'a même pas 50 ans aujourd'hui. Et pour que les chrétiens disent ça, ben, moi, je trouve ça très triste. Vous savez, même un ancien de son église est allé la voir pour lui dire, « Ma sœur, on va prier pour toi si c'est la volonté de Dieu que tu guérisses. » Mais si les anciens des églises ne savent même pas encore si c'est la volonté de Dieu, c'est un rapport très triste. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est littéralement le produit de nos croyances. Si on croit que Dieu veut peut-être qu'on soit malade, on va l'accepter, ce rapport-là. Et le rapport de la mort va nous donner le résultat. Le rapport de la mort va créer en nous la mort et puis on va en mourir. C'est toute une différence. Je parlais avec un frère et puis il me disait qu'il jasait avec des gens de d'autres assemblées et puis que les gens ne s'attendaient pas du tout à vivre des miracles. Ils ne s'attendaient pas même. Il regardait ce frère-là puis il entendait parler un discours de victoire. Puis c'est comme si, tu sais qui sort lui? De quelle planète qui sort? À croire dans les miracles encore aujourd'hui? Mais il y a toute une philosophie comme quoi même les dons du Saint-Esprit sont passés. Mais dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il est écrit qu'il ne nous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il ne manque aucun don, comment ça on passe à côté tous les dons du Saint-Esprit? Comment ça on oublie les dons de guérison? C'est pour nous aujourd'hui, mais l'ennemi veut venir voler ces choses-là. Alors, si on comprend ça, OK, vous êtes une lettre de Christ. On est cette lettre-là et on va vivre et on va représenter ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut vivre l'héritage de notre salut en Jésus-Christ? Dans Deutéronome, chapitre 30, je vais vous inviter à tourner là. Deutéronome, chapitre 30 et le verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19 et 20. Ça dit ici, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est assez simple. Dieu nous donne le choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Moi, je préfère la vie, je préfère la bénédiction. On a le choix. Dieu nous donne le choix. Et non seulement est-ce qu'il nous donne le choix et nous dit quoi choisir. Il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, ton choix détermine la prolongation de tes jours. Si vous choisissez la malédiction, votre vie va être raccourtée. Raccourcie, plutôt. Vous allez raccourcir vos jours. J'invente du français. Gloire à Dieu. Mais ça dépend vraiment de votre choix. Qu'est-ce que vous décidez? Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe beaucoup? C'est que la raison pourquoi les croyants ne croient pas la parole, c'est que, justement, hier, j'étais dans l'auto avec mon père, puis il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne croient pas la Bible. Pourquoi les gens ne croient pas les promesses de Dieu? Bien, c'est simple, parce que les gens prennent la parole, ils vont lire les récits de Jésus qui guérissait les malades, et puis les chrétiens vont dire, oui, je crois là-dedans, absolument, Jésus a fait ces grandes choses-là. Oui, c'est bien, mais c'est toujours dans le passé. On croit que c'est vrai, mais c'était vrai juste pour le passé, puis c'est pas pour aujourd'hui. Alors même si on lit toutes les promesses de Dieu, c'était jamais pour nous. C'est jamais pour nous finalement. C'est tout vrai, on y croit, mais on peut pas se l'approprier parce que justement, c'est pas pour nous. Alors l'ennemi vient voler l'Église de Jésus-Christ de la puissance. Moi, je trouve ça tragique qu'une sœur dans le Seigneur qui a reçu ce rapport-là comme quoi elle avait le cancer, que tous ceux qui viennent la visiter, ou presque, beaucoup, beaucoup de croyants, viennent pour l'encourager à mourir. Je vais vous dire, moi, en tant que pasteur à l'école biblique, j'ai jamais reçu une formation pour comment aider quelqu'un à mourir. C'est pas dans aucun manuel, voici comment aider quelqu'un à mourir. Au contraire, dans la parole de Dieu, ça nous montre comment on peut aider les gens à choisir la vie. Donc, c'est ça, nous autres, qu'on est responsable de faire. Je suis pas responsable à venir sur le bord de votre lit quand vous êtes mourant et vous faire une petite croix sur le front puis dire, bye-bye, partez en paix. C'est pas ça, mon rôle. Mon rôle, là, c'est quand vous êtes malade comme ça, c'est de venir prier pour vous et de m'attendre à une guérison au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Moi, je n'irai jamais vous encourager à mourir, même si c'est très populaire. Je n'embarque pas dans cette nouvelle mode. Mais ça dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et vous savez, il y a des gens, des fois, qui vont dire, vous autres, vous êtes donc bien bénis. Mais savez-vous, c'est une question de choix. On choisit la bénédiction, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos finances, dans notre santé, on a pris la décision qu'on était pour vivre la bénédiction. On refuse la malédiction. Et il y a des gens qui aiment ça parler de la malédiction et comment c'est normal d'être maudit et de vivre la malédiction. C'est normal parce qu'on vit dans un monde déchu. C'est normal pour vous, mais c'est pas normal pour moi parce que moi, j'ai fait un choix. Et à tous les jours, je choisis la bénédiction. Et vous savez, quand vous allez côtoyer des gens, des croyants traditionnels, vous avez l'opportunité à chaque fois de prendre cette décision-là une nouvelle fois. Vous allez côtoyer des gens qui vont être dans la tradition et qui vont vous encourager à ne pas croire le rapport de Dieu. Et à chaque jour, il faut se rappeler, c'est quoi que je crois? C'est quoi que je vais croire? Je vais être ancré dans la parole de Dieu uniquement et jamais dans la tradition. Amen. Et vous savez, une autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que le Seigneur nous a donné un mandat. Et non seulement est-ce que l'Église ne remplit pas encore le mandat, c'est qu'on n'est même pas prêt à être relâché pour le faire. Le mandat divin, c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, ça dit, « Allez, prêchez et dites. » Vous allez remarquer, c'est notre verset thème pour toute l'école de guérison. « Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. » Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça, c'est notre mandat d'aller guérir les malades. On a parlé tout au long de l'école de guérison. Mais vous voyez, en tant que croyant ou en tant qu'église chrétienne, on n'est pas là encore en train de faire ça. On n'est pas en train de guérir les malades parce qu'on n'est même pas convaincu que Dieu veut que le monde soit guéri. On est encore en train de s'obstiner. Est-ce que Dieu veut que tu sois malade ou est-ce qu'il veut que tu sois guéri? On n'est pas en train de répondre à l'appel du tout, frères et sœurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? On n'est pas en train de le faire parce qu'on pense, trois quarts du temps, on pense que Dieu veut que le monde soit malade. Mais Dieu, aujourd'hui, veut enlever le voile de sur nos yeux pour qu'on puisse dire oui à l'appel de Dieu, qu'on puisse prendre cette responsabilité comme enfant de Dieu et comprendre que oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué de l'autorité aux enfants de Dieu et c'est à nous de répondre à l'appel et de dire « Oui, Seigneur, je vais croire et je vais prier pour les malades et je vais les voir guéris au nom de Jésus. » Donc, c'est pas vrai que Dieu est souverain dans le sens que Dieu... Finalement, il va se déplacer du ciel pour tout faire encore. Non, Jésus est déjà venu sur la terre. Il a déjà pleinement payé le prix. Maintenant, c'est à nous d'agir au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, l'autorité a été donnée à l'Église. L'autorité de guérir les malades, c'est à nous. Mais il faut premièrement comprendre qu'on a un mandat et de ne pas s'obstiner avec Dieu. Vous savez, on doit embarquer dans l'équipe de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Si Dieu... Jésus est en train de se battre contre la maladie et c'est ça dans son cœur. Il veut rayer la maladie de notre Église pour qu'on puisse par la suite répondre à l'appel. Bien, on doit être avec lui. On doit dire comme Dieu. Amen. Donc, est-ce que vous êtes dans l'équipe de Dieu aujourd'hui? Écoutez dans Luc chapitre 10, versets 8 à 9. Il est écrit. Ça, c'est Jésus qui parlait. Dans quelque ville que vous entrez et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté.
ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, Jésus dit à ses disciples, guérissez les malades qui s'y trouvent. Dans n'importe quelle ville, quand vous promenez d'une ville et vous trouvez un malade, c'est un candidat pour recevoir la guérison. C'est aussi simple. Vous en trouvez un malade, priez et guérissez-le au nom de Jésus. Dieu ne dit pas, ben, commence à examiner la vie de la personne, voir si cette femme-là ou cet homme-là est digne. Non. Guérissez les malades. Vous en trouvez un, c'est ça le mandat. Simplement, c'est ça le critère. Un malade, il mérite la guérison parce que Jésus l'a déjà payé pour lui. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, il est écrit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus allait de lieu en lieu et faisait du bien. C'est quoi qu'il faisait quand il faisait du bien? Et guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Mais qu'est-ce que je trouve remarquable là-dedans? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez, la maladie, c'est l'empire, c'est une révélation du royaume de Satan. Quand on voit la maladie, on ne voit pas l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille dans la vie de la personne. Non, vous vous mélangez entre Satan et le Saint-Esprit. Faites attention. Comme j'ai parlé avec cette dame-là qui était malade à l'hôpital cette semaine, j'ai dit, les gens qui vous ont dit que c'est Dieu qui vous travaille par la maladie, j'ai dit, faites attention parce que, vous voyez, Dieu a promis dans sa parole que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Et on comprend également que la maladie, que Satan vient nous voler, nous égorger, nous détruire, et que tout don parfait vient de Dieu, dans Jean 1, verset 17. Mais le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité n'a pas besoin d'emprunter Satan et ses démons pour vous aider à cheminer dans les voies de Dieu. C'est vrai ça. De croire que Dieu a besoin de Satan pour accomplir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Mais où c'est qu'on est rendu comme enfant de Dieu où on croit que Dieu va dire, « Satan, j'ai besoin de t'emprunter quelque temps. Cette personne-là a besoin de grandir dans mes voies. Pourrais-tu aller faire des problèmes? Peux-tu aller terroriser cette personne-là, s'il te plaît? » Mais c'est ça qu'on croit dans nos églises. Réalisez-vous ça, c'est ça qu'on croit. On croit ça dans nos églises. Et là, on se demande pourquoi que nos églises sont vides au Québec. Pensez-vous que cet évangile-là attire les gens? Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est jamais ça. Quand il voyait un malade, il disait pas, « J'ai presque fini avec toi. On va continuer à travailler ça. » Puis non, quand il voyait quelqu'un de malade, c'est « Sois guéri. Sois guéri. » C'est ça notre job. C'est ça notre job. C'est de guérir les malades. C'est pas de commencer à voir l'œuvre de Satan et dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Faut faire attention, pas mélanger les deux. Le Saint-Esprit n'emprunte pas Satan et ses démons. On penserait qu'on croirait tout ça, mais évidemment, vous savez, Satan a réussi à séduire les croyants, à passer à côté de l'héritage des enfants de Dieu. Vous savez, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à tourner dans le livre de Job. On va regarder ensemble comment le livre de Job a été mal appliqué dans le corps de Christ. Job chapitre 5 et le verset 10. On va regarder ça ensemble. Dans Job chapitre 5 et le verset 10. Amen. Job chapitre 5, verset 10. Job, on va parler de Job dans Job chapitre 5. Donc Job dans chapitre 5. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire l'histoire de Job dans Job chapitre 5. Amen. Tous ceux qui sont là, alléluia. Ça fait que, en tout cas, je peux vous dire que on est béni d'avoir la parole de Dieu au lieu de la tradition. Amen. Bon, Job chapitre 5 et le verset 10, il est écrit. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Ayant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non soit non. Ici, là, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est que Job, c'est un modèle de souffrance. Pourquoi est-ce que Job est un modèle de souffrance? Parce que malgré la souffrance, Job n'a jamais maudit Dieu. Alors, malgré la souffrance, Job n'a jamais maudit Dieu. Cependant, on doit comprendre d'autres choses du livre de Job. Dans Job 3, verset 25, on a parlé la semaine passée rapidement, ça dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » On comprend ici que la foi et la crainte sont en opposition, n'est-ce pas? La foi déplace les montagnes, la crainte ouvre la porte à l'ennemi de faire qu'est-ce qu'il veut dans notre vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Ici, Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ce que Job voyait, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Il y avait toutes ces craintes-là, et ces craintes-là sont devenues une réalité dans sa vie. Et dans l'hébreu, dans Job, chapitre 2, verset 6, je vais le lire en anglais ici, pour les anglophones qui comprennent, et je vais le traduire par la suite, mais dans l'hébreu, ça dit, « And the Lord said to Satan, Behold, he is in your hand, only spare his life. » Et je traduis ça en français, mais ça, c'est le texte qu'on retrouve, la traduction de l'hébreu exactement. Là, ça dit, « Le Seigneur dit à Satan, voici, il est entre tes mains. » Voyez-vous, il est entre tes mains. Job était déjà dans la sphère où l'ennemi pouvait venir le dominer. Déjà. Pourquoi? Parce que la crainte avait ouvert la porte à Satan de venir l'attaquer. Donc, la crainte, c'est une force aussi, mais c'est une force destructrice. Et dans Marc, chapitre 5, verset 36, il est écrit, Jésus dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Dieu ne donne pas de privilège aujourd'hui de choisir la crainte. Si on veut marcher en obéissance à Dieu et si on veut recevoir l'héritage de notre salut, Dieu nous dit, « Ne crains pas. » Crois seulement. Amen. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On croit uniquement la parole de Dieu et on ne va pas croire la tradition. Parce que si vous croyez la tradition aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes en route vers la mort. Et ça, c'est triste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois et de francophones partout à travers le monde qui ont été enseignés une tradition et qui n'ont pas permis à l'Esprit de Dieu de renouveler dans la parole de Dieu. Et ils vont croire plus la parole des hommes au lieu de croire la parole de Dieu. Et on a le choix. Dieu nous dit, je vous mets devant vous la bénédiction ou la malédiction. Choisissez la vie. Et il y en a qui vont dire, non, j'aime mieux choisir la mort. J'aime mieux choisir la tradition de mes pères au lieu de choisir la vérité de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une réalité. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Nous savons que Dieu est amour, n'est-ce pas? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Aujourd'hui, on comprend que toutes sortes de choses dans la parole, des fois que les gens vont avoir pris des textes, vont avoir pris des récits, et puis là, vont bâtir des doctrines qui contredisent le restant de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comme l'histoire de Job et on va regarder ce matin également l'apôtre Paul. Les gens vont avoir pris le récit de l'apôtre Paul et puis vont construire des doctrines pour voler les gens de leur héritage. Réalisez-vous ça ce matin. On va regarder maintenant l'apôtre Paul et les chars dans la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on va y aller ensemble. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Amen. Vous êtes encore là? Ce matin, c'est un matin où le Seigneur peut vous libérer de tout mensonge pour recevoir aujourd'hui le bénéfice, les bienfaits de votre salut. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12 et versets 2 à 4. Ici, on va voir le récit de l'apôtre Paul. Et pour ceux à la radio, je vous invite à visiter le site evqmedia.com pour entendre l'enseignement la grande grâce, parce qu'ici, on en parle pendant une heure. Mais ici, ça dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Alors ici, nous voyons que l'apôtre Paul a été ravi en esprit, il est allé au ciel, il a vu des grandes choses. OK, et là, on va au verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » La tradition vous dit que l'écharde dans la chair, c'est quoi? La maladie. Regardons maintenant ce que la Bible nous dit. Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. La tradition dit que l'apôtre Paul, trois fois, a demandé au Seigneur, « S'il vous plaît, guéris-moi de la maladie. » Ça, c'est la tradition. Et verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit. » La tradition a dit, Dieu a répondu, « Non, tough. Vis avec, n'est-ce pas? » La tradition nous dit ici que l'apôtre Paul a demandé d'être guéri et Dieu dit, « Ben non, faut t'endurer ton mal, mon Paul. » Ça, c'est la tradition. Mais la Bible dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » La grâce de Dieu, c'est la méga dynamis, c'est la puissance de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul était attaqué par un ange de Satan, c'est écrit dans la parole. Et là, lorsque l'apôtre Paul voulait être délivré de l'ange de Satan, il a dit au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi de cette écharpe dans la chair. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, « Ma grâce, cette dynamis, cette force que je t'ai donnée, c'est suffisant pour toi. » Voyez-vous comment on peut changer notre façon de voir les choses quand on reçoit la parole de Dieu comme c'est écrit? Il dit, « Ma grâce te suffit. Je t'ai donné tout ce que tu avais besoin pour vivre dans la victoire, mon Paul. » Alors, l'apôtre Paul a reçu cette révélation de la grâce de Dieu. Donc, le message de la grâce, ce n'est pas comment Dieu voulait qu'il vive malade. Non, au contraire, ça nous parle comment Dieu voulait qu'il vive dans la liberté et qu'il puisse marcher au-dessus de ces problèmes-là par la puissance de Dieu qui agissait en lui. Amen. Donc, on a déjà parlé à l'Église ici, il faut comprendre. Et dans Nombre 33, verset 55, je vous donne les références pour ceux qui veulent vérifier. Dans Nombre 33, verset 55, encore une fois, on voit le terme des épines. Ça dit des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ici, ça nous parlait encore une fois, pas de maladie, ça nous parlait de personnages. Okay? Donc, les gens qui étaient pour rester dans le pays de Canaan, la terre promise ici, c'était pour être des épines dans les yeux du peuple d'Israël. Et dans Josué 23, 13, ici il est écrit, « Ils seront un fouet dans vos côtés, des épines dans vos yeux. » Encore une fois, ici, on se réfère à des personnages au lieu de la maladie. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir que si Jésus a payé le prix pour qu'on soit guéri, il n'y a aucune place dans la parole où Jésus dit finalement, même si j'ai tout fait pour vous, même si je vous fais des promesses, vous ne pouvez rien compter là-dessus parce que regardez Paul et regardez Job. Mais voyez-vous comment la tradition a volé la foi des gens, les gens qui sont malades dans leur corps, qui veulent recevoir la guérison de Dieu et qui prient, Seigneur, si tu veux me guérir, peut-être tu ne veux pas, peut-être tu veux que je sois comme Paul, peut-être tu veux que je sois comme Job. Si tu veux, mais voyez-vous, quand on prie une prière comme ça, il n'y a pas de foi rattachée. Dans Jacques, ça dit quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un avec le cœur partagé. La parole de Dieu nous dit qu'il ne s'attend pas de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Parce que quand on manque quelque chose à Dieu, on doit être convaincu dans notre cœur que c'est sa volonté. Quand je prie pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, je vais dire, je suis convaincu, je sais que le Seigneur veut te sauver. Si je dis, peut-être il veut te sauver, ou peut-être tu n'as pas été élu, peut-être Dieu veut que tu t'en ailles brûler en enfer éternellement. Mais on va prier, s'il veut, peut-être tu vas te sauver. Combien de personnes seraient sauvées parmi nous avec un évangile comme ça? Mais pareillement, avec la guérison divine qui a été accomplie par l'œuvre de la croix, si on dit aux gens, non seulement est-ce que Jésus a payé le prix pour toi, mais il veut que tu sois guéri. Le Seigneur t'aime, le Seigneur est rempli de compassion, il veut te délivrer. Mais vous voyez, il y a des esprits de tradition qui viennent contre un message comme ça pour empêcher le corps de Christ de rentrer dans la terre promise. Et nous, on peut être dans un peuple comme ça où tout le monde croit à une certaine chose et on décide, je choisis la bénédiction pour ma vie. Et vous savez, quand vous choisissez la bénédiction, non seulement est-ce que vous allez la recevoir dans votre vie, mais également dans vos familles, vous allez vivre la bénédiction, vous allez vivre la liberté, vous allez vivre la délivrance, vous allez vivre toutes ces choses-là, mais la décision repose sur vous. Puis désolé, je suis un petit peu enflammé, mais moi, mon cœur est attristé par un Québec comme ça. Sérieusement, par exemple, moi, je parlais avec mon épouse en quittant cette place. J'étais tellement comme désolé, je trouvais ça, c'est-tu triste que les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont dans des églises du plein évangile, ne croient pas la parole de Dieu. C'est triste ça, n'est-ce pas? Donc, on a vu Paul et Job, deux personnes qui sont les vedettes de la maladie. Mais pourtant, Job, pourtant l'apôtre Paul, c'était même pas la maladie. Ici, ça nous parle d'une attaque de Satan. bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je vais défaire une autre chose. Que non seulement, pour ceux qui veulent me jeter des tomates pourrites, là, non, on va y aller jusqu'au bout. Okay? Jusqu'au bout. Donc, on a l'enseignement que Dieu se sert de Satan constamment dans son Église pour purifier ses enfants. Même si Dieu dit que ce n'est pas Satan, que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, peu importe. Une autre chose que le monde va dire souvent, c'est que Dieu va se glorifier par la maladie. Avez-vous déjà entendu celle-là? Tu les gens ici, vous l'avez déjà entendu? Que Dieu va se glorifier. Le plus que vous êtes malade, le plus que Dieu va être glorifié. Ça, c'est un enseignement typique au Québec. Regardons ensemble ce que Dieu en dit. Puis ça, qu'est-ce que Joel Spinks en dit? On s'en fout qu'est-ce que j'en dis. C'est qu'est-ce que Dieu dit qui compte, n'est-ce pas? Savez-vous, il y a des gens qui ont des diplômes, des doctorats, tout le kit, et ils vont vous dire que vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu. Parce que 10 000 raisons. Ils sortent du séminaire et puis ils sont plus incrédules, ils sont rétrogrades souvent. Ils sortent des écoles bibliques, ils ne connaissent même pas la parole parce qu'il y a trop de traditions qui ont embarqué. Dans Marc, chapitre 2, versets 11 à 12, vous pouvez le lire, mais je vais juste lire versets 11 et 12, versets 1 à 12 plutôt. Le récit, c'est Jésus et le paralytique. Ici, on va juste lire les versets clés. Ça dit, c'est Jésus qui parlait, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va de ta maison. » Et au verset 12, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Qu'est-ce qui glorifie Dieu, là? C'est la guérison divine. Quand quelqu'un est malade et on prie pour la personne qui soit guérie et que la personne est guérie, ça glorifie Dieu. On prie pour quelqu'un qui est malade et il devient plus malade, ça ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas un mystère. Hein? Quelqu'un super malade, il marche dans la rue, puis là, les gens vont dire, oh, « Hey, wow, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je veux ça, moi. Je veux ça. » Est-ce que les gens font ça? Non. Mais quelqu'un comme Marie-Josée, qui était malade, qui était dans un fauteuil roulant, et puis ils vont dire, « Qu'est-ce qui s'est passé? » Et c'est justement ça qui se passe dans sa vie. Les gens, ils disent, « Ah, mais t'as donc bien changé. C'est quoi qui s'est passé? » Je crois la parole de Dieu. C'est ça, sœur, elle croit la Bible. On est des chrétiens, on commence à croire la Bible. C'est bon, ça. N'est-ce pas? De croire la Bible, ça devrait être la base, mais c'est nouveau, là. Dans Actes 3, versets 1 à 20, vous pourrez le lire chez vous. Je vais vous lire juste le verset 6 à 9. Si c'est Pierre et Jean qui étaient avec l'homme boiteux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Là, il s'est dit, « En le prenant par la main droite, il le fit lever. » Donc ici, c'est un miracle de guérison. Il l'a pris par la main, il l'a aidé à se lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louer Dieu. C'est lorsque le monde loue Dieu, c'est quand ils reçoivent une touche de Dieu, sont guéris puis ils disent, « Gloire à Dieu! Alléluia! J'étais aveugle, j'étais boiteux, maintenant je suis libre. » C'est à ce moment-là que le monde loue Dieu. C'est lorsque le monde glorifie Dieu. Et même les inconvertis vont voir ça et vont dire, « Wow, il y a quelque chose là, il y a de quoi là, il y a surnaturel, je veux ça. » Amen. C'est pas le plus malade qu'on est, le mieux qu'on glorifie Dieu. Ceci dit, on peut être super malade et glorifier Dieu quand même. Je ne veux pas juste vous mettre, vous sentir attaqué, quoi que ce soit. Si vous êtes malade, glorifiez Dieu pour votre guérison qui s'en vient, pour la manifestation. Amen. La femme courbée, dans Luc chapitre 13, versets 11 à 16. On va lire ça à partir du verset 11. « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans? C'était un esprit. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Là, imaginez-vous être courbée comme ça pendant 18 ans. Une personne comme ça arriverait dans nos églises au Québec et dirait, « Saint-Esprit me travaille vraiment. Un jour, je vais devenir vraiment sanctifié. » Mais ici, la Bible ne dit pas ça. Hein. Au verset 12, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est aussi simple que ça. Jésus a décrété, « Tu es libre. » Verset 13, « Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » C'est-tu biblique ou non? Elle glorifia Dieu à ce moment-là. Verset 14, le « mais ». Vous dites « mais ». « Mais ». Le chef de la synagogue. voyez-vous un esprit religieux qui ne veut pas être renouvelé? Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça, avec un esprit religieux? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Verset 15, Jésus dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? » Verset 16, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il dit là? Hypocrite. C'est ça qu'il dit. Cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée. C'est Satan. C'est pas le temps, me semble, après 18 ans de la guérir, elle. Jésus disait oui. Amen. Donc, je vous propose ce matin que Dieu ne se glorifie pas par la maladie, mais que Dieu se glorifie par la guérison. Amen. Des fois, on aimerait ça réveiller des gens qui croient tellement de faussetés sur Dieu. Et notre évangile, là, comme ça, là, où on a menti sur Dieu constamment, moi, là, j'ai une saine colère. Non, c'est vrai, j'ai une saine colère. Parce que vous savez, des gens qui disent qu'ils croient la Bible et qui servent mon Dieu et ils vont dénigrer mon Dieu comme ça, là, à la radio, constamment, on entend des choses où ils vont dénigrer Dieu et ils vont se dire, chrétien, c'est pas le Dieu de la Bible qui prêche. C'est pas le même Dieu. Dites pas que vous avez mon Dieu qui envoie des accidents d'auto, qui rend les gens malades, qui donne des cancers, qui fait tout ça. Ça, c'est Satan. Si votre Dieu, c'est Satan, vous pouvez dire c'est votre Dieu. Mais venez pas dire c'est le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un bon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste essayer de terminer. J'essaie de voir comment terminer. Gloire à Dieu. OK, c'est ça. En terminant, je vais regarder ici dans Jean chapitre 11, verset 4. Il y a 2 textes ici que les gens vont prendre pour dire que Dieu se sert de la maladie, puis je voulais qu'on en parle. J'en ai déjà parlé une fois, je pense, dans la première session, mais on va revenir. Dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, et verset 1 à 3. Ici, on va voir le texte en français comparativement au texte dans le grec. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » Vous avez vu, on l'a déjà lu ce texte-là, et ce texte-là, Jean chapitre 9, 1 à 3, c'est un passage clé que les gens vont se servir pour bâtir la doctrine comme quoi Dieu va se servir de la maladie et c'est afin que Dieu se glorifie. OK? Mais au verset 3, on a déjà vu qu'il y a 2 mots de rajouter qui ne sont pas dans le grec. Au verset 3, je vais lire comme c'est écrit dans le grec. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. » Mais que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc, aussi simple que ça, Jésus n'embarque pas dans des discussions, des arguments. Qu'est-ce qui est important pour Jésus? C'est qu'il soit guéri. Amen. C'est ça qui est écrit. Que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Et les œuvres de Dieu, on le sait déjà, c'était la guérison. Donc, qu'est-ce qui était dans le cœur de Jésus pour la personne, celui qui était aveugle? C'était qu'il soit guéri. Aussi simple que ça. Et dans Jean 11, verset 4, on tourne la page. Ici, l'histoire de Lazare. Okay? Il est écrit au verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc ici, on peut voir dans le récit de Lazare qui a été ressuscité dans les morts, vous connaissez toute l'histoire, que les gens vont dire, « Bien, voyez-vous comment Dieu veut qu'on soit malade afin qu'il soit glorifié. » J'ai regardé dans le grec, et qu'est-ce que ça nous dit vraiment ici? C'est que, et je l'écris en anglais dans ma Bible, mais c'est que le fruit de cette maladie va mener à la gloire de Dieu. Donc, est-ce que c'était la maladie de Lazare qui rendait la gloire à Dieu? Et tout le monde venait de dire, « Wow, Lazare est mort, gloire à Dieu, hallelujah! » Est-ce que c'est ça? Mais c'était plutôt le fruit de cette maladie qui était pour être la résurrection. Donc, qu'est-ce qui amenait la gloire à Dieu? C'était pas le fait que Lazare était malade, mais que malgré la maladie, que Dieu était pour se glorifier par une résurrection d'entre les morts. Voyez-vous ici, la résurrection, c'est ça qui glorifiait Dieu. C'était le fruit de la maladie. Comprenez-vous à ce niveau-là? Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas la maladie comme telle, mais c'est que, en anglais, j'avais écrit « leads to ». C'est que la conduite finale, okay, la conduite ou le point final de la gloire, c'est après la maladie. C'est par la résurrection d'entre les morts. Ça, je peux vous dire, il y a plein de monde de morts, ça n'amène pas beaucoup de gloire à Dieu. Mais si quelqu'un est mort, vous priez pour eux au nom de Jésus, soit ressuscité et que la personne revient à la vie, je pense que les gens vont glorifier Dieu. Hein, ça fait juste du sens. Ça fait juste du sens. Mais quand on est borné à croire le contraire de la parole de Dieu, je peux vous dire, là, on va vivre notre vie chrétienne sans puissance et on va juste être une religion comme tout le monde. C'est quoi la différence entre nous et les témoins de Jéhovah? Si on arrive juste avec un discours, avec des arguments, mais on n'a pas de puissance avec nous, c'est quoi la différence entre nous et toutes les autres religions? C'est vrai, on serait juste des religieux qu'on se rassemble ensemble autour d'un livre. On dit oui, c'était des belles histoires, mais on vit rien aujourd'hui. Moi, là, j'en veux pas de religion. Je veux une relation vivante avec Dieu. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, moi, là, je vais dire avec Dieu oui et amen. Je vais croire la parole de Dieu. Et on a un troupeau ici aujourd'hui. Vous êtes cette compagnie de gens, vous dites oui et amen. Je me réjouis qu'il y en a au Québec des gens qui vont croire la parole de Dieu. Et savez-vous, parce qu'on y croit, on va voir la gloire de Dieu parmi nous et on va le voir partout à travers le Québec. Moi, je crois. Et prochainement, à l'Arena, moi, je crois qu'on va vivre ça ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'ai prêché la moitié de mes notes et j'arrête ça là. Parce que vous savez, on aurait pu en mettre plein d'autres choses sur la guérison divine. Mais si vous avez appris une chose aujourd'hui, une chose pendant toutes les sessions qu'on a eues à date, c'est que Dieu est bon et Dieu aime que ses enfants soient en santé. Et si vous avez la révélation que Dieu veut que ses enfants soient en santé, par la suite, vous pouvez recevoir la santé, la guérison divine, et par la suite, vous pouvez prier pour les malades et voir le royaume de Dieu s'établir. Voyez-vous comment c'est simple? Mais quand toute l'Église est malade et quand toute l'Église croit que Dieu veut qu'on soit malade, comment est-ce qu'on peut répondre au mandat de Dieu? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Quand même l'Église n'est pas convaincue, comment est-ce qu'on peut convaincre le monde que Jésus est bon, que Jésus guérit les malades? Comprenez-vous? C'est tellement important. En terminant, le psaume 145, verset 9, il est écrit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » L'Éternel est bon. En tout cas, dans notre Église, il va y avoir un message qui va être prêché constamment, c'est que Dieu est bon. Quand on va commencer à changer ça comme message, vous pouvez me mettre dehors de l'Église. Quand on va dire que Dieu n'est pas bon, qu'il est rendu méchant, qu'il est l'associé de Satan, vous direz, pasteur, là, vous avez perdu votre place. Mais autant et aussi longtemps qu'on dit, là, Jésus est bon. Et Dieu a des bons plans pour vous, des projets de paix et non de malheur. Amen. Aujourd'hui, si vous avez besoin de guérison, je vais inviter mon épouse, on va prier pour vous ce matin. Vous savez, Seigneur, le Seigneur, ce matin, je crois, qu'il veut continuer à faire ce qu'il a déjà fait pendant la session, toutes les sessions qu'on a vécues à présent. Et si vous vous dites, bon, moi, j'ai rien reçu dans les trois premières, j'ai rien reçu de guérison, mais savez-vous, aujourd'hui, là, on va se mettre en accord avec vous que c'est votre jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et le salut, on sait, ce n'est pas juste être pardonné nos péchés, c'est de recevoir l'héritage de notre salut, la guérison divine également. Alors, je vais inviter l'équipe de la louange. On va louer le Seigneur. Si vous n'avez pas besoin de guérison, louez le Seigneur et remerciez-le pour les guérisons qui vont être effectuées ici. Et je vais demander également à Guy et Chantal de venir avec nous prier, et mon père et ma mère de venir prier. On va prier pour les malades. Mon épouse et moi, on va prier en premier. Par la suite, le pasteur Wallace et ma mère, ils vont continuer à prier, et Guy et Chantal, ils vont continuer après nous à prier pour les besoins. Et combien de personnes ici croient que le Seigneur veut faire des choses? Amen. C'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a l'onction d'huile ici aujourd'hui aussi. Et la semaine prochaine, s'il y a eu des personnes de guéris aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner la chance de témoigner dimanche prochain également.
Amen. Alléluia. C'est vraiment le temps de redorer l'image de Dieu, hein? Le bon Dieu est bon. Vous ne pouvez pas avoir trop de la parole de Dieu en vous. Je vous encourage de vous imbiber de sa parole. Vous savez, c'est le meilleur médicament. J'en suis la preuve. Hein? La parole de Dieu, c'est le meilleur médicament. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en prendre autant que vous en avez besoin. Vous pouvez pas faire d'overdose de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu guérit encore aujourd'hui. Son nom est Jehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit est ici aujourd'hui. Alléluia. Je vous encourage ce matin de choisir la vie. Choisissez consciemment la vie, parce que quand vous ne choisissez pas consciemment la vie, inconsciemment vous choisissez la mort. Choisissez la vie au nom de Jésus-Christ. Choisissez la vie. Je vais vous inviter à vous lever, à étendre vos mains vers le ciel et à recevoir maintenant votre guérison. Alléluia. Dieu est ici. Jehovah Rapha, tu es l'Éternel qui guérit. Je relâche la vie de Dieu sur vous. Je relâche la vie de Dieu sur vous. Ô Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite ici maintenant sur la terre, comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es bon envers tous. Ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Recevez la guérison de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, merci par tes meurtrissures. Nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de toucher chaque personne, chaque corps qui reçoit maintenant. Touche chaque corps, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang, Seigneur Dieu. Tu as payé le prix, Seigneur Jésus, pour que nous soyons guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je relâche la vie. Je relâche la vie de Dieu sur vous. Je relâche la vie sur vos corps. Recevez. Recevez la vie de Dieu maintenant. Recevez. Recevez la vie de Dieu maintenant. Je parle à la maladie. Maladie, tu quittes les corps maintenant. Esprit d'infirmité, tu quittes les corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est un commandement. Je parle la vie à vos corps. Alléluia. Soyez revêtus de santé. Soyez revêtus de la vie de Christ. Alléluia. Je commande à la douleur. Je commande à la douleur de quitter votre corps maintenant. Je commande à toute forme d'infection de quitter votre corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la santé parfaite sur votre sang. Votre pression sanguine revient normale. Je commande à votre cœur. Je commande à votre cœur d'être restauré comme neuf. À vos poumons de respirer parfaitement. Toute fonction respiratoire est restaurée. Asthme, tu quittes maintenant. Tu es maudit dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Votre système immunitaire est fortifié, restauré. Alléluia, à sa pleine, complète fonction, optimalement, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, je parle la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu à tous vos organes. Je parle la vie de Dieu à votre foie, à votre pancréas, à vos intestins, à vos poumons. Alléluia, alléluia. Soyez restaurés complètement. Si vous avez besoin d'un nouvel organe, le ciel est rempli. Le Seigneur attend juste que vous étendiez votre main et que vous receviez ce nouvel organe. Soyez restaurés complètement, complètement. Recevez dans le nom de Jésus-Christ.
Et même avant qu'on prie pour vous, je veux vous encourager. Quand on va prier pour vous avec l'huile, l'huile, c'est simplement un symbole de l'onction de Dieu. Et ce matin, quand on va prier pour vous avec l'onction d'huile, je veux vous encourager de juste relâcher votre foi, comme quoi c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail dans vos corps maintenant. Et vous savez, non seulement est-ce que vous allez guérir aujourd'hui, pas juste ça, mais vous devenez un évangéliste de guérison. Je vous dis, tout le monde, là, vous êtes tous appelés à être des évangélistes de guérison, à prêcher l'évangile. Et la semaine prochaine, je vais vous demander combien de personnes ont imposé les mains aux malades. Je vais vous poser la question. Combien de personnes vont le faire? Hein, sais-tu, on y croit-tu, la Bible? On la croit-tu, la Bible? C'est un livre avec la poussière. Si on y croit, faisons ce que Jésus nous dit de faire. Amen. La semaine prochaine, je vais demander, si vous n'avez pas rencontré de personne de malade, imposez-vous les mains, vous pourrez dire oui.
Que votre corps soit fait complet. complète. Vous savez, il n'y a pas de distance dans la prière. Je vais compléter avec ce que mon mari a dit. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade, prenez le téléphone. Vous pouvez prier au téléphone. Il n'y en a pas de distance dans la prière. Le Saint-Esprit agit partout. Alléluia. Que votre corps soit fait complet. Soyez complet, complet. Rien de manqué, rien de brisé. Je déclare et décrète le shalom de Dieu sur vous. Oui, que la paix de Dieu vous envahisse. Shalom de Dieu sur vous. Rien de manqué, rien de brisé. Recevez votre nouvelle ADN. Vous avez l'ADN de Jésus-Christ. Vous avez été faite une nouvelle créature en lui. Oui, vous êtes une nouvelle créature et c'est bon pour votre corps aussi. Votre corps est complètement renouvelé de la tête jusqu'aux pieds. Recevez votre guérison de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.